Bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Après une petite pause estivale, bien méritée de mon côté, je suis certaine du vôtre, nous allons terminer la deuxième saison de ce balado au cours du mois d'août avec la fin des années 1000 avant notre ère, qui marque, il faut le dire, un tournant dans l'histoire du monde, notamment sur le pourtour de la mer Méditerranée, mais aussi en Asie. Notre troisième saison pourra alors s'amorcer en septembre avec une histoire qui est axée sur encore plus de civilisations et d'interactions entre elles. Il faut dire alors que le fer sera désormais répandu et que l'économie, le commerce, l'art de la guerre et la culture vont être en grande transformation. Alors, c'est ce qui va mériter notre troisième saison. Et après nous être intéressés, entre autres, à la dynastie Shang et aux Hittites dans notre onzième cours, nous retournons en Égypte pour aborder cette grande période de l'histoire pharaonique qu'est le Nouvel Empire, qui est considéré comme l'âge d'or de l'Égypte ancienne avec les règnes de pharaons que vous connaissez généralement comme Hatshepsut, Thoutmose III, Akhenaton ou Ramsès II. Et nous commencerons par parler davantage de guerre, de politique, de gestion de l'État à cette époque qui se déroule quand même sur une longue période. On parle de 1550-1069 avant notre ère, pour ensuite nous intéresser à certains aspects de la vie quotidienne. Alors, comme toujours, à vos cahiers de notes, c'est parti! Et avant d'entrer dans cette histoire plus politique, plus étatique, intéressons-nous quand même aux sources qu'on possède pour parler de l'Égypte du Nouvel Empire, parce que c'est quand même la période où on a beaucoup plus de documentation que pour le Moyen Empire et surtout l'Ancien Empire. La documentation est particulièrement variée et les sources ne sont pas uniquement égyptiennes. Elles sont souvent très détaillées. Il faut aussi être un petit peu prudent parce qu'on a quand même aussi des sources qu'on appelle de type panégyrique ou hagiographique où on fait des biographies qui encensent un pharaon sans que ce soit nécessairement toujours la réalité. Donc, il faut faire preuve d'un peu plus de circonspection, si vous le permettez, quand on étudie certaines ces sources de l'époque du Nouvel Empire. Mais il faut quand même dire que c'est une époque où on a une explosion à la fois documentaire, mais aussi archéologique. Et ça s'explique entre autres parce que c'est une époque prospère et qui à une époque à laquelle on a une volonté, en fait, de garder les actes des grands pharaons en mémoire. Et ça, c'est sous plusieurs formes. On a beaucoup de papyrus, beaucoup plus que pour les autres époques, comme le Moyen Empire ou l'Ancien Empire, et surtout les époques intermédiaires. Mais on a aussi des stèles commémoratives. On a des scènes peintes et descriptives dans les temples et les tombeaux. Vous connaissez probablement la description, la commémoration de la bataille de Kadesh de Ramsès II, à titre d'exemple. Et c'est l'époque où on commence à avoir aussi des textes en hiératique. Et ça, c'est une forme cursive des hiéroglyphes. Il y a une forme de simplification pour qu'on puisse écrire davantage et plus rapidement. Alors, on commence à avoir une plus grande abondance. Et comme je vous disais, on a aussi le début des premières grandes biographies. Et ça va commencer surtout avec Thoutmose III, là, qui est le premier à vouloir qu'on explique en détail son règne et, comme je vous dis, de manière peut-être un peu grandiloquente. Donc, on est beaucoup plus dans le panégyrisme que dans la réalité. Mais il y a quand même une part quand même aussi de vrais faits historiques, mais c'est quand même toujours un peu plus grandiose que ce devait être en réalité. On a aussi des nouveautés dans les sources à cette époque-là, comme la correspondance diplomatique. On en a, entre autres, en cunéiforme, donc en babylonien, en hittite, parce que c'est effectivement une époque où, sous Séti Ier, Ramsès II, entre autres, vous allez avoir une confrontation entre les hittites et les égyptiens. Donc, on va avoir aussi de la correspondance et de la documentation qui va venir de l'autre côté. Donc, ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Et donc, pour comprendre comment on arrive au Nouvel Empire, retournons à la deuxième période intermédiaire, lorsque les Hyksos ont envahi, en fait, une partie du royaume d'Égypte, mais qui a subsisté, en fait, quand même des pharaons et des dirigeants dans le sud du pays, du côté là, de Thèbes. Et donc, il faut dire que quand on arrive à la période d'Hyksos, on a comme une forme de dissolution quand même du royaume là, à partir de la 13e dynastie. Et surtout dans le nord du pays, on va commencer à avoir un métissage parce qu'on a perdu quand même la basse et la moyenne Égypte. Et donc, comme je vous disais, on s'est replié du côté du pouvoir, surtout vers Thèbes, vers le sud du pays. Mais on perd aussi un contrôle de la Nubie, où on avait des mines d'or. Donc, c'est vraiment une période assez difficile, la deuxième période intermédiaire pendant l'invasion Hyksos. Les rois n'arrivent plus vraiment à envoyer des troupes dans les forts de surveillance au sud, donc on a une fin de l'occupation égyptienne en Nubie. Mais on remarque quand même qu'il y a un maintien des relations commerciales même sous les Hyksos. Donc, ça veut dire que dans le sud du pays, on arrive quand même à faire des échanges commerciaux. Et ça s'explique entre autres parce que vous allez voir du côté de ce qui est aujourd'hui le Soudan, la montée d'un état plus centralisé qu'on appelle le royaume de Kush. Et ça, c'était parti de leur capitale qui est Kerma. On y reviendra dans un autre balado, mais c'est généralement quelque chose, vous allez voir, les fameuses pyramides très petites, très étroites, qui font partie là, de ce très riche patrimoine du Soudan. Ça appartient là, à cette histoire, en fait, du royaume de Kush. Et c'est une capitale, d'ailleurs, Kerma, là, qui a été fouillée là, par, entre autres, l'université de Memphis. Et on sait là, qu'il se gérait déjà à l'égyptienne à l'époque, là, quand on approche, en fait, du Nouvel Empire. Donc, on est rendu vers 1600 avant notre ère. L'Égypte est effectivement, là, vu les relations commerciales, une très, très grande inspiration du point de vue architectural. Donc, même dans les tombeaux là, qui ont des formes pyramidales, des hypogées, mais leur manière aussi de représenter leurs leaders comme des pharaons et des reines, mais c'est une culture qui est quand même hybride, donc nubienne et égyptienne. Mais donc, ça, c'est existant et on échange donc avec le sud de l'Égypte qui est sous contrôle pharaonique, entre guillemets, alors que tout le reste du pays est sous le contrôle des Hyksos. Et donc, ce qu'on veut, ben, c'est sûr, c'est qu'on cherche, en fait, pendant presque un siècle à se débarrasser de ces envahisseurs étrangers qui ont bien traumatisé des Égyptiens et on sait en fait là, que on va essayer, hein, les Égyptiens vont essayer là, lentement mais sûrement de se battre contre les Hyksos. Il y a un certain Kamosé là, qui va être celui qui va commencer à les attaquer de manière un peu plus directe. Il faut dire que l'Égypte a eu des devoirs à faire pendant l'invasion Hyksos. Elle avait une armée, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une armée quand on compare à ce qui existait autour de la mer Méditerranée, très modeste. Et c'est une période où les Égyptiens vont devoir apprendre à se battre, vont devoir étudier leurs ennemis pour comprendre comment se battre, comment être de meilleurs archers, entre autres, comment mieux utiliser une de leurs forces, que sont les haches. En fait, les Égyptiens sont très bons pour lancer des bâtons pour tuer, entre autres, les oiseaux, on va dire, chassiers dans les marécages le long du Nil, mais sont très bons pour la même raison, pour lancer des haches qui peuvent être absolument létales, et comment travailler en fait en grand bataillon pour réussir à défaire des armées comme celle des Hyksos, qui est quand même très très organisée. Donc ça leur prend presque un siècle pour arriver à le faire. Et donc ce Kamosé, c'est le dernier pharaon de la 17e dynastie, malgré de bonnes relations là, avec les Hyksos, parce qu'il comme ils sont là depuis pendant un certain temps, à un moment donné, il y a quand même une cohabitation relativement paisible là, qui va s'établir. Il va essayer d'attaquer cette nouvelle capitale dans le delta du Nil, la capitale Hyksos qui s'appelait Avaris. Et là, ça va mener à des luttes qui vont durer plus de 30 ans et qui permettent aux Égyptiens de mieux comprendre, en fait, qui sont leurs ennemis, comment les attaquer, comment éventuellement gagner contre eux, les chasser du territoire. Alors ça prend quand même un certain temps. Et ça va provoquer une amélioration de l'armée égyptienne. Elle va s'adapter à la réalité d'un ennemi étranger. Et là, l'armée va devenir un instrument de pouvoir. Ça va être l'auxiliaire du pouvoir pharaonique et le pharaon, maintenant, va avoir un nouveau chapeau. Oui, il est un représentant du monde divin sur Terre. Il est là pour protéger l'Égypte. Il est là pour protéger aussi le cycle du soleil, donc l'agriculture en parallèle. Mais il est maintenant un chef de guerre et on va de plus en plus représenter les pharaons au devant de leurs armées, donc des hommes qui vont mener les armées. Donc, c'est une nouvelle imagerie, en fait, du pouvoir royal qui va commencer à émerger quand on va arriver au début du Nouvel Empire, parce que cette nouvelle armée, bien, elle va devoir être efficace sur Terre. Pour les Hyksos, c'est vraiment une armée terrestre dont on a besoin, plus mobile, bien organisée, mais on va essayer d'augmenter aussi notre puissance militaire sur mer. Les Égyptiens avec déjà des bonnes flottes, mais là, la flotte ne sert plus juste à de la surveillance, du commerce ou tout simplement de la longue distance. Elle doit servir aussi dans un objectif militaire. Alors, les bons soldats vont commencer à avoir de plus en plus de chances d'avoir de l'avancement, en fait, dans une sorte de carrière militaire. Et c'est là qu'on va voir une armée de métiers se développer en Égypte, mais aussi la formation de recrues qui vont être prises dans les familles égyptiennes selon des normes qui sont fixées par les souverains là, quand on va entrer vraiment au Nouvel Empire. Donc, à la fin de ce qu'est la deuxième période intermédiaire, on voit une plus grande utilisation du cheval et du char. Donc ça, c'est indéniable, surtout pour les longues distances. Plus grande utilisation du métal dans les armes. Là, ça y est, les épées, les pointes de flèches, mais aussi les fameuses haches. Et on va commencer donc à utiliser des flottes commerciales qu'on va modifier pour le combat, à la fois pour transporter des troupes, mais aussi pour encercler, en fait, des flottes ennemies si possible. Et là, on va commencer à avoir un roi qui va mener les armées sur son char, on va avoir une infanterie, on va avoir, en fait, des bataillons de 200 hommes environ chacun, on va avoir des archers, on va avoir une charrie qui était l'élite de l'armée, mais on n'a pas vraiment de cavalerie, mais on a une charrie, une marine, et les troupes sont dirigées par le roi, mais administrées par le vizir et un ministre de la guerre. Et on va avoir des généraux d'unité. Donc, tout ça, c'est nouveau, là. On n'avait pas ça, en fait, vraiment, là, pas de manière aussi organisée, avec autant de gens qui, maintenant, en font un métier avant cette invasion des Hyksos. Donc, elle aura provoqué, en fait, la militarisation de l'Égypte, cette invasion étrangère. Et le premier roi qui va vraiment réussir à chasser les Hyksos du territoire égyptien, bien, s'appelle Amosis, qui deviendra Amosis Ier, parce que vous ne serez pas surpris, puisque ce général va réussir à repousser les Hyksos, il sera le premier pharaon de ce qu'on va appeler le Nouvel Empire. Et on va réavoir enfin la réunification là, des deux Égyptes sous son règne. Et c'est quand même un grand stratège militaire et c'est pas pour rien qu'on va le proclamer roi. Avec lui donc, c'est vraiment le début du Nouvel Empire. C'est une époque qui va être caractérisée par de grandes dynasties de pharaons, en fait deux grandes dynasties, les Thoutmosides dans un premier temps et les Ramessides ensuite, et qui est caractérisée, je vous dirais, par la force du pouvoir, appuyée maintenant par une armée solide. Et c'est aussi une époque d'explosion artistique, même si le Moyen Empire, c'est la révolution culturelle en Égypte, on n'ira pas de main morte, en fait, entre autres du point de vue de l'architecture. C'est la grande époque du développement des temples de Karnak, cet immense complexe dédié à toute une série de divinités. On va avoir de grandes visées expansionnistes aussi au-delà des frontières habituelles de l'Égypte. Et c'est l'apogée de l'art de la momification. Donc, vous avez déjà un balado, un cours qui a été fait là-dessus. Je vous invite à y retourner. Et il faut dire quand même que la période des Hyksos, ça conduit aussi à une grande ouverture sur le Proche-Orient parce que les combats vont s'étirer jusqu'en Palestine qui, de ce qu'on en sait pour l'instant, toujours en 2025, semble être le berceau d'origine là, des Hyksos. On va commencer à rétablir assez rapidement là, les contacts commerciaux avec le Proche-Orient. Aussitôt, en fait, là, que le pouvoir pharaonique va se restabiliser à partir d'Amosis Ier. Donc, une reprise rapide du commerce pour les matières premières. Alors, on va s'intéresser un petit peu à quelques pharaons, en fait, de la première grande dynastie qui est les Thoutmosides. Mais c'est sûr que je n'irai pas faire, dans un balado comme ça, là, la biographie de tous les grands souverains. On ne verra pas tous, parce que ce serait très long. Et certains ont peut-être moins marqué l'histoire politique, l'histoire militaire aussi de l'Égypte ancienne. Mais je vous invite évidemment là, à lire. Je vous donne à chaque cours toujours des suggestions de lecture. Et pour l'Égypte, je vous en ai déjà donné plusieurs, là, des livres d'histoire, on va dire, un peu plus généraux, pour, en effet, le pouvoir vous plonger dans l'histoire, on va dire, plus chronologique de l'Égypte ancienne. Donc, comme complément, je vous invite à le faire. Mais on peut dire que le Nouvel Empire, bien, avec Amosis, on a ce qu'on appelle l'émergence de la 18e dynastie. Et là, c'est la naissance d'un véritable empire. Empire parce que l'Égypte va dépasser, comme je vous disais, les frontières habituelles. Elle va commencer à être plus conquérante, plus belliqueuse aussi sous certains pharaons. Et au-delà d'Amosis Ier, on va avoir certains pharaons quand même assez intéressants ou qui, du moins, ont laissé leur marque à long terme sur l'Égypte. Et c'est le cas, entre autres, d'Amenophis Ier. Je ne vous dirai pas toujours toutes les dates des pharaons, vous pourrez aller les voir, mais Amenophis Ier, donc un règne de 1525 à 1504, qui est reconnu pour ses succès militaires et les gains économiques. Donc, lui, il va faire des campagnes militaires en Nubie, il va retourner chercher, en fait, les territoires qu'on avait peut-être perdus à l'époque de l'invasion des Hyksos. On va les réintégrer, en fait, ces territoires-là au pays d'Égypte. Le but, c'est toujours, encore une fois, d'avoir un certain contrôle des mines d'or, hein, qui est quand même une richesse très importante pour l'Égypte. Et Amenophis Ier, quand même reconnu comme étant celui qui va construire beaucoup de temples et de monuments pour démontrer la puissance du roi et des ancêtres et du pays. Donc, c'est lui qui commence les grands investissements à Karnak. Donc, on est du côté de ce qui est l'ancienne Thèbes, mais sur la rive ouest. Et c'est vraiment à partir de ce règne-là qu'on va commencer la construction de ce qui va devenir un gigantesque complexe de temples avec des colonnes en forme de papyrus, en forme de lotus, tellement grandes qu'il faut plusieurs personnes parfois pour en faire le tour et on a l'impression d'être écrasé par ces colonnes-là tellement elles sont gigantesques et témoignent de la puissance du monde divin et à travers ce monde divin de la puissance des pharaons aussi. Donc on peut lui donner ce coup d'éclat, commencer les premiers grands investissement à Karnak et surtout restabiliser la frontière dans le sud du pays avec la réintégration de plusieurs territoires de ce qu'on peut appeler la Nubie dans l'Antiquité. Ensuite, ben là, vous avez vraiment celui qui donne son nom à la dynastie, qui est Thoutmôsis Ier, qui est un pharaon quand même assez important parce que il va avoir une vision de la politique qui n'est peut-être pas standard dans l'Antiquité. C'est lui, en fait, qui aurait eu un rêve au pied du Sphinx, où il rêve que la Vallée des Rois serait le bon endroit pour inhumer maintenant les pharaons de cette nouvelle dynastie sans que les tombeaux soient pillés. Donc, une vallée où il fait très chaud, très caché. Comme c'est montagneux, il y a peu de gens qui vont s'aventurer là. Donc, on peut construire des tombeaux sans que les gens le sachent. Donc, Thoutmôsis Ier, là, qui va être à l'origine, en fait, là, de l'inauguration hein, de la nécropole de la Vallée des Rois. Il finit la conquête de la Nubie, d'ailleurs. Et lui va quand même envoyer une expédition en Syrie qui va faire jouer un rôle assez important à l'Égypte dans le commerce et la diplomatie au Proche-Orient. Là, on va établir des contacts beaucoup plus sérieux. Et l'objectif aussi, c'est une forme de non-agression. On est là pour faire du commerce, on est là pour se parler et ne pas peut-être se piler sur les pieds, si vous me permettez l'expression, pour le moment du moins. Et il est quand même assez avisé, je vous dirais. C'est un pharaon qui va faire des campagnes pour s'assurer que les frontières soient très bien protégées, vérifier s'il y a la présence d'ennemis potentiels. Les Hyksos ont rendu les Égyptiens très, très nerveux par rapport à ça. Et il va avoir deux enfants avec deux épouses différentes, donc son successeur, Thoutmôsis II, mais qui est un enfant dès la naissance malade, et on a peur, en fait, qu'il ne survive même pas jusqu'à l'âge adulte. Et avec une autre concubine, ben, il va avoir cette femme qui s'appelle Hatshepsut. Et c'est là où il est intéressant, Thoutmôsis Ier, parce que il remarque que sa fille est terriblement intelligente et qu'elle peut être un bon appui, en fait, pour son demi-frère, Thoutmôsis II. Thoutmôsis Ier n'a pas hésité, en fait, à lui donner une solide formation sur ce qu'est la gestion d'un État, quelles sont les relations commerciales, avec qui on a des relations commerciales, comment s'assurer qu'elles soient bien établies, qu'elles soient maintenues, parce qu'il voyait bien que Thoutmôsis II était quand même assez faible, il était très inquiet, donc il se disait que Hatshepsut ferait une bonne alliée, en fait, pour l'État. Et c'est comme ça qu'on va les marier, mais pas les marier dans l'espoir qu'ils aient des enfants. C'est un mariage, on va dire, plus de régence, en fait, qui s'établit entre les deux. Thoutmôsis II, d'ailleurs, qui nous est très peu connu, là, qui va mourir quand même relativement jeune. L'objectif ici, ben voilà, Thoutmôsis II va avoir un fils avec sa servante, qui va être Thoutmôsis III. Lui, bon, on s'en va là, ça va être un pharaon quand même assez important, qui est trop jeune pour régner, un petit classique de l'histoire, déjà dans l'Antiquité, et c'est comme ça que Hatshepsut, lorsque Thoutmôsis II décède vers 1479 avant notre ère, va... D'ailleurs, vous allez voir des différences hein, dans les dates, dans les livres, sont les dates des livres que vous avez pour ces règnes-là, parce qu'il y a quand même des petits flous qui subsistent dans la transition, là, après Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis II, Hatshepsut, là, des fois, vous allez voir peut-être des différences de 2 ou 3 années, là, selon les livres que vous avez consultés. Et c'est normal, mais c'est rarement plus que ça. Et donc, voilà, Thoutmôsis II a un fils avec sa servante, qui est Thoutmôsis III. Il est trop jeune pour régner. Et Hatshepsut parvient à se faire reconnaître comme étant sa co-régente officielle. Et c'est comme ça qu'elle va arriver au pouvoir, là, dans les années 1470 avant notre ère. Et qu'elle va devoir... mettre en place, je vous dirais, tout un stratagème pour réussir à se faire accepter parce que là, c'est une femme qui va être au pouvoir, oui, en co-régence avec un jeune pharaon, mais qui est tout jeune, là, qui a à peu près 4-5 ans. On est un petit peu dans la même histoire que Louis XIV, dans quelque chose comme ça. Elle va devoir légitimiser cette forme exceptionnelle de pouvoir. Donc, on va avoir beaucoup de stèles, de monuments explicatifs qui vont confirmer que les dieux vont lui donner le pouvoir en attendant que Thoutmôsis III, c'est en âge de régner. Donc ça fait partie quand même de la propagande qu'on va mettre en place. Et elle va essayer d'agir comme un pharaon pour démontrer qu'elle est vraiment légitime. D'ailleurs, dans les stèles, on a d'ailleurs au temple de Karnak quelque chose d'assez intéressant là, où on la voit boire littéralement au pied de la vache qui est Hathor, qui est soit la déesse qui va donner le pouvoir divin au pharaon sous la forme du Ankh, A-N-K-H, qui est cette espèce de croix ancée. Soit on la donne un peu à manger au pharaon, on a plusieurs représentations comme ça, mais Hatshepsut, elle va aller boire directement au pied de la vache pour dire « je reçois le pouvoir divin et je suis donc légitime dans mes fonctions ». Et elle va très vite vouloir démontrer qu'elle est capable, en fait, de gérer l'Égypte le temps que Thoutmose III soit en âge de régner. Donc, elle fait construire un temple funéraire gigantesque dans le roc à Deir el-Bari, qui est un temple très, très célèbre pour autant pour les raisons architecturales que malheureusement, un attentat très meurtrier qui est survenu à la fin des années 90. Et elle va aussi faire une expédition commerciale ce qu'on appelle au pays de Punt. On sait que c'est vers la mer Rouge, mais les Égyptiens n'étaient pas très, très bons pour nous donner des bonnes indications géographiques. Mais elle va beaucoup publiciser ça, le fait qu'on fait une expédition commerciale intéressante. On est en train d'aller chercher des produits peut-être un peu plus diversifiés, variés. Dans l'ensemble, elle maintient la stabilité du pays. Elle maintient, en fait, les relations diplomatiques. Il n'y a pas de problème aux frontières pendant sa régence. Elle fait donc un très, très bon travail. Mais, évidemment, l'entourage de Thoutmose III commence à être inquiet parce qu'elle fait un très bon travail, on a peur qu'elle usurpe pendant longtemps le pouvoir. Et on se dit qu'une fois adolescent, Thoutmose III est tout à fait en âge de régner. Et c'est comme ça qu'il va reprendre le pouvoir. Et est-ce lui vraiment? Est-ce peut-être davantage l'entourage politique? Mais c'est sûr qu'on va essayer de buriner, en fait le nom de sa belle-mère sur de nombreux monuments. Vous en avez beaucoup d'exemples dans différents musées. D'ailleurs, le Royal Ontario Museum en a tout un panneau. Si jamais ça vous intéresse, donc des fois c'est plus proche si vous êtes au Québec, au Canada, là, du côté de Toronto. Et il serait presque parvenu à la faire disparaître de l'histoire, mais elle a tellement travaillé fort, en fait, pour laisser ses traces que on a fini par pouvoir la retracer quand même assez, sans dire facilement, mais une fois qu'on a compris qu'elle avait vraiment assuré cette régence-là, on a été capable, en fait, de voir un peu ce qu'elle avait fait. Et c'est quand on est tombé sur le tombeau de son vizir qu'on a compris l'ampleur de ce qu'elle a fait. Vizir qui, de ce qu'on en comprend par l'éloge dans son tombeau, était aussi l'amoureux d'Hatshepsut. C'est grâce à lui qu'on a compris à quel point elle avait travaillé très, très fort pour maintenir l'héritage de son père, Thoutmose Ier, et s'assurer que Thoutmose III hérite d'un royaume encore plus prospère et encore plus stable. Mais on a failli ne jamais le savoir. Alors, une chance que ce vizir a beaucoup parlé d'elle, et une chance, en fait, que Thoutmose III et surtout son entourage n'ont pas réussi à tout effacer, en fait, en ce qui concerne les traces d'Hatshepsut. Alors, Thoutmose III, lui, arrive au pouvoir. Il hérite d'un royaume qui est pacifié et prospère. Et reste que néanmoins, du côté du Proche-Orient, ça bouge beaucoup. Il y a des nouveaux royaumes, des anciennes tribus semi-nomades qui sont en train non seulement de se sédentariser, mais qui veulent plus de territoire pour l'agriculture, les échanges commerciaux. Donc, on commence à avoir des révoltes, en fait, du côté du Proche-Orient, notamment du côté de l'ancien royaume de Mitannie. On est du côté de la Syrie. Ça commence à créer des problèmes, des inquiétudes, et Thoutmose III va se dire, moi, je veux pas revivre ce qui s'est passé avec les Hyksos. J'attendrai pas, en fait, que les gens se rendent vers nos frontières, on va y aller nous-mêmes. On va avoir une stratégie davantage offensive que défensive et je vais étendre le territoire de l'Égypte, je vais l'augmenter, d'où cette idée qu'on est en train de constituer un empire pour éviter en fait que d'autres personnes aient la même idée et commencent à empiéter sur le territoire égyptien. Donc il se rend à Gaza, la Syrie du Nord-Est et Thoutmose III se révèle quand même un grand stratège militaire et politique. On parle beaucoup de Ramsès II pendant le Nouvel Empire comme étant un très très grand pharaon, mais militairement, politiquement, Thoutmose III a vraiment fait beaucoup, en fait, on pourrait dire beaucoup plus, en fait, que Ramsès II. C'est un pharaon particulièrement intéressant et là où il va être le plus surprenant, c'est dans sa façon aussi d'encercler ses ennemis. Vous pourrez lire sur ce qu'on appelle la bataille de Megiddo, parce que là, je pourrais en faire un balado exclusif. Je le ferai peut-être d'ailleurs dans ce que j'appelle maintenant les petits cours thématiques plus tard, en fait, peut-être dans la saison 3 ou peut-être la 4, on verra. Mais vous pourrez aller lire sur la bataille de Megiddo pour voir un peu comment, en bloquant l'eau, les stratégies qui ont été utilisées pour maintenir, en fait, ce royaume-là en état de siège, comment il était quand même assez intelligent et astucieux, Thoutmose III, dans ses stratégies militaires. Mais là où il se démarque au-delà de tant de chefs de guerre de l'histoire, c'est qu'il a une stratégie diplomatique assez surprenante. Il va amener à la cour d'Égypte 36 fils aînés de chefs d'État du Proche-Orient. Ce sont des otages, oui, mais comme ce sont les fils, en fait, de chefs et de rois, ils vont être élevés à la cour égyptienne. Le but, en fait, c'est de les égyptiens. organisée. Donc, ils vont apprendre la langue égyptienne, vont étudier avec les princes de la cour égyptienne, vont étudier avec aussi les scribes, les prêtres qui, éventuellement, sont ceux qui maintiennent souvent les relations diplomatiques, les échanges commerciaux avec le Proche-Orient. Et quand un père décède, on lui retourne son fils, mais ce fils-là n'a pas envie, en fait, d'une guerre avec l'Égypte. Il est ami maintenant avec l'Égypte. Et c'est un peu une façon de pacifier la situation et de s'assurer que plus personne n'ait envie d'attaquer de manière sournoise l'Égypte. Et ça, ça fonctionne. Alors, c'est quand même assez surprenant, en fait, là, comme stratégie de la part d'un pharaon, mais de la part d'un chef d'État, en général, dans l'Antiquité. Ensuite, ben là, après Thoutmose III, vous allez avoir là, Aménophis, Aménophis III, Thoutmose IV, qui vont être dans la continuité, on est dans la pacification, Aménophis II, pardon, et Thoutmose IV, on est vraiment dans la continuité, la pacification des frontières, mais on essaie de créer quand même de nouvelles alliances, on maintient la prospérité économique et surtout parce que ça va bien. Ben là, on veut remercier les dieux. Et c'est comme ça qu'on va avoir une époque de très, très grande construction monumentale un peu partout en Égypte, là, après le règne de Thoutmose III. Donc, soit Aménophis II et Thoutmose IV. Et ensuite, ben là, vous avez le règne d'Aménophis III, qui est le plus grand des constructeurs de toute cette série, dont le règne se termine autour de 1400 avant notre ère. Mais c'est lui qui... C'est vraiment le pharaon dont il nous reste le plus de construction et de monuments, donc plus que Ramsès II. Et on sent l'influence orientale, la mixité dans l'art, dans les monuments qu'il a laissés. Et Aménophis III a comme grande épouse la reine Ti. Et il a un fils, Aménophis IV. Et c'est là où on a une période, alors que tout est, le royaume d'Égypte est solide et prospère, tout va bien, on a un pharaon qui... peut-être intéressé plus par la spiritualité, le côté mystique de la vie que par la gestion de l'État. Et ça, ben, ça va amener une période d'instabilité quand même assez importante pour laquelle, malheureusement, et là, j'insiste là-dessus, il s'est écrit beaucoup de livres et je ne comprends pas pourquoi ils ont été publiés d'ailleurs. Il s'est fait beaucoup de... série pseudo-documentaire de ce que j'appelle des documentaires où là, bon, ce pharaon va être associé à des extraterrestres, oui, va être associé aussi à quelque chose qu'on doit nuancer et on va le faire dans ce cours qui est la question du monothéisme en Égypte. Donc, je vous parle d'Aménophis IV qui, lorsqu'il sera au pouvoir, va vouloir concentrer ses énergies sur une seule divinité qui est le disque solaire Aton et c'est pour ça qu'il va prendre le nom d'Akhenaton. Et là, vraiment, on a une grande période de bouleversement socioculturel en Égypte. On a un changement de mentalité, en fait, avec ce pharaon et sa grande épouse royale, quand même, qui est associée déjà à l'époque comme une femme magnifique, qui est Néfertiti. Et il va faire construire une capitale en plein désert sur le site aujourd'hui de Tell el-Amarna, qui va s'appeler Akhetaton. D'ailleurs, Akhenaton veut dire celui qui est agréable à Aton. Akhetaton, c'est l'horizon d'Aton ça coûte très cher, hein? Et ça coûte très cher en main-d'œuvre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fouilles archéologiques présentement sur ce site et on se rend compte qu'on a fait travailler beaucoup de jeunes garçons dans des conditions assez difficiles parce que les squelettes des cimetières dans les alentours de ce qu'a été Akhetaton, on parle de scoliose pour des gens qui étaient quand même assez jeunes. Donc, le travail va être très, très, très difficile. Il veut que ce soit construit très, très rapidement. Donc, ça ne devait pas nécessairement très, très bien passer du côté de la population égyptienne, même si on n'a pas toujours le point de vue de la population générale, mais on sait en fait que les gens sont troublés parce que aux yeux des Égyptiens, les cultes traditionnels vénéraient des divinités comme Amon, et pas Aton en fait, une divinité vraiment secondaire, délaissé Amon, Amon-Ré, délaissé Isis, Osiris, c'est impensable, Horus et compagnie, Hathor, parce que toutes ces divinités en fait sont associées à des aspects du monde et à l'équilibre libre, en fait, du monde pour éviter qu'il sombre dans le chaos, dans les ténèbres à tout jamais. Alors, il faut quand même imaginer que ça a été tout un changement et probablement une panique généralisée un peu partout. Les clergés de prêtres sont vraiment pas juste troublés, fâchés de ce qui se passe. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que, oui, Akhenaton, Néfertiti, on les voit, qui vénèrent le disque solaire, ce disque qui a des mains qui vient toucher un peu leur tête et leur tête s'allonge vers les rayons du soleil, d'où nombreuses théories extraterrestres. Et il faut quand même comprendre que, oui, la famille royale, l'entourage d'Akhenaton et Néfertiti vont peut-être vénérer une seule divinité, mais pas le reste du pays. Alors, de dire que le règne d'Akhenaton est une ère de monothéisme en Égypte, c'est quelque chose que à peu près tous les profs d'histoire ancienne, tous les égyptologues essaient de nuancer depuis très longtemps. Et ça passe juste pas, parce que c'est beaucoup plus facile auprès du grand public de dire « Hey, wow, l'Égypte a eu une ère de monothéisme et tout ça », puis ça marque davantage les esprits, mais ce n'est pas le cas. Si on voulait parler d'une ère de monothéisme en Égypte à cette époque-là, au 14e siècle avant notre ère, il aurait fallu que le pays suive et qu'on ait vraiment là, des monuments à Aton partout, qu'on ait un délaissement en fait des temples à Karnak, et ça ne s'est pas passé. Les prêtres ont continué à vénérer les divinités traditionnelles. On ne voulait pas briser notre relation avec les divinités traditionnelles non plus. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais il faut dire quand même que Akhenaton amène une forme de réalisme dans l'art qui est assez intéressante. Bon, il souffre d'une maladie génétique dont va souffrir aussi son fils Toutankhamon, et il n'hésite pas à se faire représenter avec les malformations, entre autres ses hanches, les hanches très, très élargies, les cuisses et tout ça. Et on a pour la première fois la représentation d'un pharaon qu'on peut reconnaître. Akhenaton est facile à reconnaître parce qu'il s'est fait représenter selon ses traits à lui, et non pas juste des traits uniformisés qu'on va voir de tous les pharaons dans de la pierre, où on n'est pas capable vraiment de les distinguer les uns des autres. Akhenaton est très facile à distinguer pour cette raison-là. Néfertiti aussi, avec son célèbre buste. On est dans le réalisme, et ça, c'est assez intéressant quand même pour cette période de l'Égypte ancienne. Faut dire quand même que parce qu'on a besoin d'argent pour maintenir une nouvelle capitale, on fait fermer des temples, on essaie de limiter les activités de certains, même leurs activités agricoles, parce que, bon, c'est ça. Elle a coûté très cher, cette capitale, et après la mort d'Akhenaton, on l'abandonne. Donc, elle va avoir une durée de vie d'à peu près 30 ans. Non seulement on va l'abandonner, mais on va la raser aussi, cette capitale-là. Et c'est ce qui fait qu'on a des manques d'informations aussi pour bien comprendre cette période-là. Mais c'est sûr qu'on va aussi utiliser la fameuse technique du drap mouillé dans la pierre, et ça, c'est nouveau quand même en Égypte, c'est sûr que là, ça va amener beaucoup de bouleversements. Bon, comment meurt Akhenaton? Ben voilà, là, il y a des choses qui sont floues pour cette période-là. On ne le sait pas. Est-ce qu'il était... Il avait quand même une maladie génétique. Est-ce qu'il est mort de sa belle mort et on a profité de sa mort pour tout de suite ramener le reste de la famille royale à Thèbes, dans la capitale qui était la capitale depuis le Moyen Empire? Très probablement. Bon, on sait que lui va subir ce qu'on peut appeler en latin la damnatio memoriae, donc effacer la mémoire. On va marteler son nom partout. On va essayer de s'assurer qu'on ne se rappelle pas trop, en fait, du règne de ce pharaon-là. La capitale est abandonnée. Est-ce que nous avons sa momie dans la tombe de la Vallée des Rois, la KV-55, qui est d'ailleurs très abîmée, même le cercueil a été piétiné. C'est une grande possibilité, là, du point de vue génétique, mais je n'ai pas le temps dans ce petit cours-là là, pour aller en profondeur avec tout ça. Ça, c'est le genre de choses que je pourrais faire dans un cours, peut-être à part, là, un cours thématique juste sur Akhenaton et Néfertiti. Il n'en demeure pas moins que là, il va y avoir quand même une succession pour la mort d'Akhenaton. Deux à trois peut-être personnes qui vont assurer la transition avant que son jeune fils Toutankhaton, qu'on va renommer Toutankhamon pour montrer le retour au culte traditionnel. Est-ce que Néfertiti a été régente dans cette transition-là? C'est une très grande probabilité, mais on manque cruellement de données pour cette période-là. Autant Thoutmôsis III est tellement bien documenté, autant Akhenaton et Toutankhamon sont des règnes pour lesquels on manque quand même cruellement d'informations. Alors, faites attention, là, quand vous lisez même sur Wikipédia et ailleurs, des fois, ça semble très élaboré, mais ce sont souvent des hypothèses plutôt que des faits avérés pour cette période-là en particulier. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Néfertiti? Ça reste un mystère. Est-ce que c'est son trésor qui a été récupéré pour faire celui de Toutankhamon qui meurt trop jeune? C'est la théorie d'un égyptologue britannique là, qui s'appelle Nicola Reeves, mais ce n'est en rien démontré. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, mais on n'a effectivement jamais trouvé là, la tombe de Néfertiti. L'Égypte a des fois laissé penser que ce serait possible, mais pour l'instant, là, il n'y a pas de tombe officielle avec le nom de Néfertiti là, qui a été découverte dans la Vallée des Rois ou ailleurs. Alors ça fait partie des petits mystères de l'Égypte ancienne. N'en demeure pas moins que que le jeune Toutankhamon, donc en 9 ans, lorsqu'il monte sur le trône, il n'est pas le fils de Néfertiti. Il est en fait le fils d'Akhenaton et d'une concubine. Et à 9 ans, ben, c'est un peu comme toute Moses III, il a besoin d'un co-régent. Et c'est comme ça que vous avez un prêtre et un général, Ayor-Em-Eb, qui vont l'aider là, assumer ses fonctions. Donc, c'est un retour officiel du pharaon à Thèbes, c'est la restauration des cultes traditionnels, c'est le retour même encore plus grand de l'importance du temple de Karnak, de son clergé, de ses prêtres. Mais bon, Toutankhamon, qui lui aussi a quand même des troubles génétiques, bon, un accident de chance pendant qu'il chasse, a très possiblement souffert de malaria. Ben là, disons qu'il y a comme tout un cocktail là qui fait en sorte qu'il meurt vers l'âge de 19 ans. Il n'a pas eu le temps, en fait, de vraiment laisser un héritage. C'est pas un règne qui est très symbolique. C'est sa tombe, en fait, qui fait que tout le monde connaît Toutankhamon parce que c'est le jeune pharaon oublié. C'est la tombe cachée un peu dans la vallée des rois qui n'a pas pu être pillée et qui va dévoiler que si un jeune pharaon comme lui a eu un tombeau avec autant de richesses, ben, qu'était le tombeau de Ramsès II, à titre d'exemple. Alors, il meurt très jeune. Aï et Horemheb vont lui succéder, un à la suite de l'autre. Et c'est une période quand même où les Hittites, dont on a parlé dans le cours précédent, continuent d'accroître leur pouvoir au Proche-Orient et là, commencent à devenir une menace. Alors là, on a très, très peur d'une période d'affaiblissement du pouvoir royal parce que Aï et Horemheb, ce sont des régents, mais n'ont pas de légitimité royale à proprement parler. Et il faut dire qu'Akhenaton, ben, était tellement concentré en fait sur sa capitale et son nouveau sa nouvelle vision religieuse qu'il a beaucoup négligé en fait les relations extérieures. Et là, comme son fils meurt trop jeune pour bien les rétablir, on entre dans une période qui pourrait être très compliquée. Est-ce que la femme d'ailleurs de Toutankhamon, sa jeune épouse Anxounamoun, est-ce qu'elle a cherché des alliances d'ailleurs avec les Hittites par le mariage et tout ça? Il y a des flous par rapport à tout ça, c'est quand même le moment où on va essayer de trouver qui pourrait vraiment devenir le pharaon d'une nouvelle dynastie. C'est comme ça que vous avez un général, en fait, d'armée qui est quand même assez intéressant, qui va devenir qui va être le vizir, en fait, le vizir, le grand gestionnaire sous Horemheb. Il s'appelle Paramessu, lorsque Horemheb décède, ben, c'est lui, en fait, qui va être nommé pharaon et il va choisir de s'associer au dieu soleil Ré, prenant ainsi le nom de Ramsès Ier, dont la momie est déjà transité par les États-Unis, soit dit en passant. Et c'est ce qui nous amène vers l'émergence d'une nouvelle dynastie quand même assez importante, qui est celle des Ramessides, la 19e dynastie pour l'époque du Nouvel Empire. Ramsès Ier, qui n'est pas de lignée royale, mais de grande famille militaire originaire du delta du Nil, qui n'a pas le temps de faire grand-chose parce qu'il règne un peu plus d'un an de ce qu'on en sait, entre 1295-1294. Mais il a un fils, et ce fils lui va prendre le nom assez étonnant d'un dieu qui parfois inquiète dans la mythologie égyptienne, qui est le dieu Seth. Il décide de prendre le nom de Seti Ier. Et là, on a un pharaon qui va vraiment réasseoir l'autorité royale, restabiliser le pouvoir pharaonique. Donc, Seti Ier, là, qui va régner de 1294 à 1279 avant notre ère. Donc, c'est déjà un général en chef de la politique extérieure sous son père. Et c'est un très grand pharaon. Il a la volonté de renforcer sa monarchie en s'identifiant au grand roi précédent. On veut retourner même aux anciens pharaons de l'ancien empire, montrer qu'on est encore de la même lignée qu'un Khéops, qu'un Khéphren. On est encore, en fait, dans la même lignée que ces premiers pharaons qui avaient des grandes visions pour l'Égypte. C'est pas parce qu'on vient d'une dynastie, on va dire plutôt d'une famille militaire, qu'on n'a pas de légitimité sur le trône. Donc, il va tout faire, en fait, s'assurer que les gens considèrent que les Ramessides, ben, c'est une dynastie qui mérite le trône d'Égypte. Et il va y aller avec une politique d'équilibre. Hein. Rester fort sans déplaire aux prêtres, aux nobles, qui sont quand même importants dans toutes les régions, dans tous les nombres d'Égypte auprès, qui sont ceux qui ont ce lien, peut-être un petit peu plus de proximité avec la population, donc il fait très attention à ça, il veut éviter les révoltes et il va quand même mettre en place de grandes campagnes militaires pour restaurer l'ordre, parce que c'est sûr qu'il y a des affaiblissements des frontières, surtout du côté donc au-delà de Gaza là, avec la Libye aussi, les Hittites donc qui menacent peut-être des territoires égyptiens ou du moins des territoires alliés aux Égyptiens. Ça, ce sont des problèmes frontaliers qui vont être réglés par son fils, qui l'associe au trône très rapidement. Donc, Seti Ier est sur le trône et il amène toujours avec lui son jeune fils qui va prendre prendra le nom de Ramsès II pour que les gens le voient, réalisent qu'il est formé pour être pharaon, qu'il va avoir tout en main pour succéder à son père quand ce sera le temps. Son père qui meurt quand même assez âgé et qui est une des plus belles momies, soit dit en passant... des grands pharaons du Nouvel Empire. Ramsès, donc, a tout ce qu'il faut lorsqu'il arrive au pouvoir. Donc, lui va régner quand même de 1279 à 1213. C'est un très long règne, connu, bien documenté, parce que Ramsès veut qu'on le connaisse. Et c'est quand même une époque glorieuse de l'Égypte, parce qu'il a une personnalité qui est presque ineffaçable à une époque d'affrontement entre grands empires orientaux. Ramsès, d'ailleurs, hein, quand je vous disais, c'était revenir aux divinités traditionnelles, on peut dire, ça veut dire « Ré l'a créé, l'a façonné ». Et bon, qu'est-ce qu'il ajoute à tout ça? Ben, il va fonder une capitale, non pas une capitale politique administrative, Thèbes reste la capitale de l'Égypte, mais il va fonder une capitale militaire, Pi-Ramsès, dans le delta, donc dans le nord du pays, dans le but d'en faire une capitale où on forme les troupes, parce qu'on a maintenant une armée de métier, et des troupes qui peuvent mieux surveiller les frontières. Et c'est lui qui va se rendre à Kadesh, défendre la frontière égyptienne, ce qui va mener à cette célèbre bataille, parce qu'elle est documentée, qui a lieu en 1275 avant notre ère, la bataille de Kadesh entre Ramsès II et le souverain Mouat Ali II. Et c'est probablement une des batailles les plus célèbres du Proche-Orient parce qu'elle est documentée. Et selon Ramsès et tout ce qu'on va laisser comme inscription par la suite, ça reste un des hauts faits de sa carrière, relaté sur les murs de plus d'un monument. Mais c'est un des rares combats dont on a les deux versions. Et selon les deux versions, version hittite et version égyptienne, les deux ont été vainqueurs. Chaque empire a gagné la bataille de Kadesh, de pourquoi on y va souvent avec l'idée que c'est probablement un ex-aequo, et chacun est retourné s'occuper de ses frontières ensuite. Mais la monarchie hittite, elle va commencer à s'affaiblir après la bataille de Kadesh, et Ramsès, lui, va non seulement maintenir la prospérité, la stabilité de l'Égypte, mais va avoir une période tellement paisible qu'il va se mettre à construire de très, très grands monuments. Mais la bataille de Kadesh, quand même, mène à l'aboutissement du premier traité d'État à État, premier traité de paix dont on a une copie de chaque côté là, dans l'histoire. Donc, on a une copie dans chaque royaume, dans chacune des deux langues. On a une version en égyptien, on a une version en hittite. Et ça va fonder quand même une paix durable entre les deux empires. Et c'est quand même, donc, après ce haut fait, ben, comme la frontière va bien, ben, Ramsès se consacre plus à la politique intérieure, l'embellissement, les grandes constructions, donc les grands temples à sa gloire, comme le Ramesseum, la Course du Soleil ou Abu Simbel, que vous connaissez très probablement. Et à sa mort, alors qu'il est très âgé, ben, il laisse un pays au sommet de sa puissance et de son rayonnement culturel. Par contre, parce que là, on a un règne d'à peu près d'environ 67 ans, c'est quand même pas rien. C'est sûr que la suite est peut-être un peu moins rose. Là. Il va y avoir des problèmes de succession, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ça bouge de plus en plus, en fait, du côté de la Méditerranée et du Proche-Orient. D'où pourquoi je vous dis que on va passer à notre saison 3 après les années 1000 avant notre ère, où là, c'est une période plus trouble, mais où il se passe tellement de choses que, bon, ben, en Égypte aussi, là, ça va avoir des impacts éventuellement. Bon, est-ce qu'il est le plus grand pharaon de l'histoire égyptienne? C'est à vous de décider. Pour certains, c'est davantage Thoutmose III qui serait probablement le meilleur de ce côté-là. Et donc, ça nous amène brièvement à regarder un peu comment l'État égyptien est... constitué au Nouvel Empire, parce que là, on a un État quand même qui est beaucoup plus hiérarchisé et bureaucratisé que par le passé. Parce que c'est un État qui est constamment en croissance sous le Nouvel Empire. Alors là, ça prend beaucoup plus de scribes qui vont avoir des tâches très, très précises. On a besoin d'un corps de fonctionnaires, on a besoin de gens instruits et compétents aussi pour maintenir les relations diplomatiques, s'assurer qu'on comprend bien, en fait, les traités qui vont être signés aussi pour les échanges commerciaux, mais aussi les traités diplomatiques. Donc, on a une bureaucratie qui est beaucoup plus importante à cette époque-là et donc plus d'écrits. Donc, ça, c'est intéressant pour nous. La capitale, qui est Thèbes, est toujours le siège de l'État. C'est là où se trouve l'organisation centrale du système administratif de l'Égypte. C'est là où se trouve le palais principal, la résidence du pharaon et de la cour et des principaux dignitaires. Mais on sait que les pharaons avaient aussi des palais d'été. Quand ils étaient en campagne militaire, ils avaient aussi des lieux de repos un peu partout en Égypte. On en a trouvé un de Thoutmose III, il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça c'est très intéressant, ça vient confirmer en fait cette hypothèse là, qu'ils avaient plusieurs lieux de repos là, pour le pharaon et son entourage immédiat, surtout quand ils étaient en campagne militaire. Et on a encore toujours les nomes qui sont très, très importants. Chaque nome va avoir ses gestionnaires, va être un centre de gestion et va être lié, en fait, à l'état pharaonique via le vizir. Parce que le vizir, dans le fond, c'est le bras droit du pharaon. Oui, le pharaon est l'autorité suprême en Égypte, mais il ne peut pas être partout à la fois. Et la gestion des nomes, la gestion des taxes, des impôts à l'intérieur de l'Égypte, ben c'est le vizir qui va être un peu plus en charge de ça. Il est nommé directement par le pharaon, ça doit être quelqu'un en qui il a vraiment confiance. Et il est vraiment au sommet de la pyramide de la gestion tout de suite après le pharaon. Et c'est à lui là, que le pharaon délègue son autorité. Et c'est à lui que peuvent s'adresser les fonctionnaires civils, les magistrats, là, en tout premier lieu. Et c'est le vizir aussi, là, c'est à lui que parviennent au final les plaintes de la population contre l'administration quand ce sont des plaintes, en fait, qui dépassent le régional, quand ce sont des plaintes, on va dire, qui relèvent davantage de l'État. Et il a le droit là, de déclencher des enquêtes s'il le juge nécessaire et d'appliquer des sanctions. Ce que peuvent faire aussi quand même les nomarques dans les nomes quand ce sont des cas régionaux de peu d'ampleur, là, mettons vol de bétail ou des choses comme ça. Là. Et le vizir s'assure aussi que les grands bureaux des fonctionnaires de l'État fonctionnent bien. Il supervise aussi comment fonctionnent les temples pour s'assurer que la relation avec le divin soit toujours impeccable, mais qu'il n'y ait pas non plus de fraude ou d'abus du point de vue de la gestion même des terres agricoles qui sont souvent associées aux temples. Alors, on pourrait parler, là, parce que les temples, ce sont des noyaux économiques. Là. Ils ont des biens, ils offrent des emplois à la population, ils gèrent des terres agricoles, mais surtout, là, ce sont ceux qui assurent cette relation, comme je vous disais, une relation qui doit être bienveillante entre le monde divin et le monde humain. Et c'est comme ça qu'on va avoir vraiment là, des hauts administrateurs là, qui vont se trouver sous la gouverne du vizir, c'est lui qui va les nommer. Et ça, d'ailleurs, on en a trouvé quelques tombeaux, en fait, de ces hauts administrateurs, et certains tombeaux de vizir, d'ailleurs, là, à l'ouest de la vallée des rois, qui nous ont fourni quand même des informations assez intéressantes là, sur les tâches que je viens de vous décrire. Dans cette hiérarchie, vous avez aussi les prêtres, hein, qui sont terriblement importants, font partie du quotidien. C'est des acteurs constants dans les changements du pays. On l'a vu avec, entre autres, Akhenaton, parce qu'ils sont importants pour les cultes, les offrandes, le maintien des temples, parce que les temples, ben, c'est l'endroit où résident les dieux et ça doit être très bien entretenu. Et les dieux vont s'y trouver sous la forme d'une statue que seuls les prêtres, en fait, les pharaons peuvent voir. Hein. La population n'a pas accès à la pièce centrale de ces temples-là où se trouve la statue d'une divinité. Parce que les Égyptiens ne doivent jamais connaître le vrai visage des dieux. Et c'est la raison pour laquelle la représentation anthropomorphe, donc on a des formes humaines, mais aussi avec des visages des fois animaliers ou des choses comme ça, mais on sait que ce n'est jamais le vrai visage d'une divinité qu'on a chez les Égyptiens parce qu'on ne peut pas voir le vrai visage d'une divinité. On ne serait pas capable de supporter d'une certaine façon. Et comme le pharaon ne peut pas être en permanence partout dans le pays, ben, les prêtres ont quand même des tâches assez importantes du point de vue là, de la gestion de leurs terres et des populations qui se trouvent autour des temples aussi parce qu'ils doivent assurer la survie et le bien-être des prêtres qui habitent les temples. Ils doivent assurer aussi quand même aussi là, l'éducation de ces gens-là. Les prêtres font partie des gens éduqués qui savent lire et écrire, du moins pour ceux qui font partie du haut clergé dans la société égyptienne. Mais on a aussi là, des prêtres qui vont travailler au champ quand ils sont dans les classes les plus basses, le bas clergé, qui, eux, ne seront pas nécessairement toujours aussi bien éduqués. Donc, comme je disais, on a le haut clergé, on appelle les pères divins et tunétaires, qui sont les serviteurs directs du dieu du temple, sont dirigés par un grand prêtre, et vous allez avoir le bas clergé qui, outre la gestion du culte, bon, occupe des fonds, ils vont se prendre soin des objets sacrés, purifier les lieux avec des aspersions, laver la statue du dieu. Puis on va même avoir des prêtres spécialistes, par contre. Surtout au Nouvel Empire, on sait qu'on a des astronomes, on a des prêtres qui vont faire des lectures, on a des responsables de cérémonies, on a des horologues qui s'assurent là, qu'on respecte bien les jours fastes et néfastes de l'année là, pour certains rituels, et on a des prêtres qui sont spécialisés en médecine aussi et en momification. Alors, les fidèles qui vivent à l'extérieur du temple, ben, ils viennent y travailler. On va avoir des musiciens, des chanteurs, on va avoir des gens qui vont venir aider le grand prêtre dans sa tâche administrative. On a des scribes pour les impôts. Et dans cet univers, ben, on a aussi quand même aussi ben, beaucoup de femmes qui ont quand même des tâches. Hein? Il y a un harem pour les pharaons, ça c'est important pour maintenir la lignée, qui sont au service souvent de la reine. On a une espèce de clergé féminin aussi parce que chez les femmes, surtout des plus hautes classes, on a beaucoup de femmes qui vont être des prêtresses, qui vont célébrer les cultes des déesses en particulier. Et ce sont souvent des fonctions qui sont honorifiques et accordées par la reine. Et au Nouvel Empire, on a quand même plusieurs femmes là, qui vont occuper des fonctions comme ça de prêtresses et dont on a les tombeaux, les mentions à différents endroits. Dans la société égyptienne, ben, vous avez, c'est sûr, les paysans qu'on voit un peu dans les marchés, qui sont des lieux de sociabilité où on va fonctionner avec du troc parce que la monnaie, va avoir un impact réel. En Égypte, seulement à l'époque hellénistique, on n'est vraiment pas rendu là. Mais bon, il faut imaginer les marchés où les paysans vendent leurs produits, les artisans aussi, les cuisiniers. Et pour les Égyptiens, pendant longtemps, reste que les paysans, ce ne sont pas des gens de basse classe. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de l'État parce qu'ils doivent nourrir la société avec une diversité là, de céréales, de fruits et de légumes. Donc, ils cultivent aussi le lin qui va servir ensuite à tisser les vêtements. Ils sont quand même perçus comme étant parmi les plus utiles de la société égyptienne. On ne les néglige pas et on ne les dénigre pas. Mais c'est sûr qu'ils sont moins enviés dans la société parce qu'ils sont souvent parmi les plus pauvres et ils ont un travail qui est peut-être un petit peu plus difficile. Et surtout, ils ont une lourde pression fiscale là, sur la productivité de leurs terres. Leur travail sert quand même à nourrir les classes qui, elles, ne cultivent pas la terre, comme la famille royale, les administrateurs royaux, les scribes, etc. Donc, c'est sûr qu'on les associe quand même à un travail qui est difficile et très physique, mais ils ont quand même une certaine liberté en ce sens où, en Égypte, pensons entre autres au mariage, c'est basé sur l'amour. J'aime quelqu'un, je décide de vivre avec cette personne-là, bien, on est un couple et on vit ensemble. Et la femme a le droit de se séparer, de divorcer, d'avoir la moitié des biens, dans la grande majorité, incluant des terres agricoles. De ce côté-là, c'est une vie peut-être un petit peu plus douce et, on va dire, basé sur une certaine équité si on compare à ce qu'on verrait là, du côté, mettons, de la Grèce ou de la Rome antique un petit peu plus tard. Dans cette société égyptienne, il ne faut pas oublier non plus là, qu'on a des charpentiers, des artisans qui sont un maillon très important, surtout au Nouvel Empire, parce que ce sont eux là, qui vont construire les grands temples, qui vont construire tous les grands monuments gigantesques au Nouvel Empire. La plupart des grands artisans spécialisés, d'ailleurs, sont formés au palais, ils sont héréditaires de père en fils. Ils sont considérés comme étant de catégorie sociale moyenne, c'est plus enviable que les paysans. Ils ont différents métiers spécialisés. Donc, chacun sa tâche, hein, du point de vue des artisans. Et ils ont des corporations de métiers, là, qui sont quand même assez intéressantes pour l'époque. Il ne faut pas oublier qu'on fait autant des meubles, du mobilier funéraire, des arcs, des flèches, des cannes, des sceptres pour les pharaons, les temples. On a des carrossiers, on a des gens qui s'occupent de faire aussi le mobilier des maisons. Tout dépend de vos moyens financiers, ben, ça va varier beaucoup. Mais ce qui est dommage, en fait, pour les artisans, c'est que leur production est restée quand même assez anonyme. On a le village de Deir el-Médineh, qui est un village secret où vivaient les artisans qui construisaient les tombeaux de la Vallée des Rois, qui nous est un petit peu plus connu parce que ce village-là, est un site archéologique. Mais c'est quand même dommage que les artisans qui travaillaient à faire les magnifiques tombeaux, de la Vallée des Rois, mais les tombeaux de particuliers un petit peu partout en Égypte, il y en a des très, très beaux, n'aient pas laissé de nom de signature. On ne les connaît pas nécessairement très, très bien. Et ça, il faut dire, c'est vraiment dommage. Alors, c'est un gros tour d'horizon. Je vous promets de retourner en Égypte, pas juste du point de vue chronologique, mais de peut-être y revenir avec soit un pharaon, parler peut-être des femmes et tout ça. Donc ça, je me réserve ça pour des cours thématiques, ne vous inquiétez pas. Mais j'espère que ce tour d'horizon un peu plus chronologique vous aide à vous replacer là, dans cette grande trame qu'on appelle le Nouvel Empire. En attendant notre prochain cours, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous suggère d'autres lectures. Je vous ai déjà proposé des livres sur l'histoire égyptienne, donc je vais vous en proposer des nouveaux. Si Hatshepsut vous intéresse, je vous conseille « La reine mystérieuse » Hatshepsut par Christiane Desroches-Noblecourt qui est paru chez Pygmalion. Et vous avez aussi un livre assez intéressant qui est un collectif qui s'appelle « La vie quotidienne de l'Égypte ancienne » et ça, c'est paru chez Hachette Collection. Et si vous voulez voir vraiment les différents corps de métier, comment les gens vivaient et tout ça, c'est quand même bien fait. Il n'y en a pas beaucoup des livres comme ça, donc je vous le conseille. Et si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire, en archéologie, sur les réseaux sociaux, mes deux comptes Facebook sont Evelyne Ferron Historienne, où je fais pas mal ce qui me tente. Et vous avez mon compte d'actualité là, quotidienne qui est Historiophile, actualité que je fais aussi là, sur mon compte Blue Sky, de temps en temps encore un peu sur X, mais Blue Sky est devenu vraiment mon fil de presse en fait en histoire, en actualité historique et archéologique. Et si vous appréciez ces cours d'histoire, ben n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les plateformes et à partager les épisodes pour que d'autres personnes les découvrent. Et moi, je vous dis à bientôt pour notre dernier cours de la saison 2.